Deutsche Welle. Vue d'Allemagne.
Guten Tag, willkommen, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Vue d'Allemagne au cœur de l'été, avec la canicule qui continue de frapper la République fédérale. S'il fait une vingtaine de degrés dans nos studios, il fait beaucoup plus chaud dehors. On attend jusqu'à 41 degrés à l'extérieur. Alors à Ouaga ou à Bamako, ça va peut-être vous faire sourire, mais c'est énorme pour l'Allemagne, digne du livre des records, disent d'ailleurs les prévisionnistes allemands ici. Alors l'été, la canicule, Angela Merkel devant les journalistes, l'histoire coloniale allemande, on revient sur ces sujets dans un instant. Et juste après, ne manquez pas notre grand reportage cette semaine, on part à Pontevedra, en Espagne, à pied. Et pour cause, cette ville atypique a complètement fait disparaître les voitures de ses rues. Mais avant le sud de l'Europe et l'Espagne, on s'arrête donc sur l'actu en Allemagne. Los geht's, c'est parti. Alors si vous nous écoutez régulièrement, vous le savez, Vue d'Allemagne traite un grand thème d'actualité ou d'histoire chaque semaine. Mais en cette semaine estivale, on change un peu de formule. Retour sur quelques actualités marquantes de la République fédérale de la semaine écoutée. Avec d'abord donc Der Sommer, l'été qui bat son plein en Allemagne. Toutes les écoles du pays seront d'ailleurs en vacances dès lundi prochain. Les élèves de Bavière étaient jusque-là encore en cours cette semaine. Après, ils vont pouvoir profiter donc de la période estivale qui est donc très chaude. La canicule frappe l'Allemagne et toute l'Europe d'ailleurs jusqu'à plus de 40 degrés prévus pour Cologne dans l'ouest ces jours-ci. Des températures inhabituelles qui rendent les conditions de travail de beaucoup compliquées, provoquent des inquiétudes chez les agriculteurs déjà en manque d'eau dans beaucoup de régions. Des mesures de restriction ont d'ailleurs été prises dans plusieurs villes du pays. Le risque d'incendie est au plus haut dans beaucoup de régions également. Et les arbres meurent, c'est ce qu'explique cette semaine la biologiste et journaliste de Deutschlandfunk, Britta Fecker.
Il n'y a même pas besoin d'aller en forêt. Quand on regarde dans les rues, les platanes ont déjà perdu beaucoup de feuilles, comme si c'était l'automne, parce qu'ils sont en état de stress, infestés de champignons, car ils doivent combattre la sécheresse et n'ont pas réussi à bourgeonner suffisamment. Et dans la forêt, ce sont toutes les espèces qui sont concernées, pas seulement les épicéas qui sont morts par rangées entières, aussi les hêtres, les chênes. On voit que toutes sortes d'arbres sont vraiment en état de faiblesse sur leurs racines.
Et en plus du manque d'eau, les arbres allemands faibles sont attaqués par les scolytes. Ce sont des petits insectes qui pondent sous l'écorce des arbres et peuvent les faire mourir. Dans toute l'Allemagne, depuis l'an dernier, insectes, tempêtes et sécheresses ont détruit, accrochez-vous, 110 000 hectares de forêt. Un chiffre qui est fourni par l'Association des propriétaires de forêts en ce mois de juillet. L'actu cette semaine, c'est aussi la conférence de presse estivale d'Angela Merkel, la chancelière allemande, qui au passage a fêté ses 65 ans le 17 juillet dernier. Elle a reçu pour ça un beau bouquet de fleurs devant les journalistes. À Berlin, devant les journalistes quelques jours après, la chancelière a déploré le soutien de Moscou au parti populiste pendant cette conférence de presse donc qu'elle tient chaque année avant la période estivale, avant les vacances. Un motif d'inquiétude pour Angela Merkel, ce soutien de Moscou au parti populiste en Europe. La chancelière a également apporté son soutien aux femmes élues démocrates américaines attaquées récemment par le président Donald Trump. On vous en a parlé plusieurs fois sur cette antenne. Elle a assuré aussi que son gouvernement allait faire plus pour le climat, notamment sous la pression des manifestations Friday for Futures. Des propositions concrètes doivent être faites le 20 septembre prochain. Angela Merkel a aussi, devant les journalistes, rassuré sur son état de santé et ses tremblements dont on vous parlait il y a peu. Elle a enfin salué la nomination d'une femme allemande, en plus sa désormais ancienne ministre de la Défense, à la tête de la Commission européenne.
Cette semaine a été assez mouvementée. Tout a commencé par une bonne nouvelle pour l'Europe, à mes yeux, à savoir qu'Ursula von der Leyen a été élue à la tête de la Commission européenne par le Parlement européen. Et du point de vue allemand, nous pouvons être fiers qu'après plus de 50 ans, une Allemande soit à nouveau à la tête de la Commission et qu'elle soit la première femme à la tête de la Commission.
C'est celle qui est présentée comme la dauphine de la chancelière Annegret Kramp-Karrenbauer, AKK, qui a donc pris le poste de ministre de la Défense pour remplacer la nouvelle présidente de la Commission européenne dont parlait Angela Merkel il y a quelques instants. La passation de pouvoir entre les deux, à laquelle assistait aussi Angela Merkel, a d'ailleurs donné lieu à une photo très symbolique. Trois femmes de pouvoir, assises tout sourire. Elles se regardent complices, sans aucun homme autour d'elles. L'image doit servir d'exemple pour certains. Les femmes doivent prendre le pouvoir. Mais ce n'est pas du goût de tous. Le quotidien Bild, allemand, habitué aux polémiques, a publié le cliché avec le titre « Pourquoi cette photo nous met en colère ?» On a cru sentir un peu de frustration et de machisme. Un chiffre cette semaine qui fait l'actu, 341 700, c'est le nombre de logements qu'il faudrait construire en Allemagne cette année et l'an prochain. En 2019, 341 700 et en 2020, 341 700 aussi. C'est le nombre de logements donc qu'il faudrait construire pour répondre aux besoins toujours plus importants. Des chiffres calculés par l'Institut privé économique allemand. C'est dans les grandes villes telles que Francfort, Berlin ou Cologne que le manque de logements se fait le plus ressentir. Dans la capitale, par exemple, Berlin, seuls 73% des besoins en nouveaux logements sont couverts. C'est même 46%, moins de la moitié, à Cologne, dans l'Ouest. On est à 70% en moyenne dans tout le pays. En réaction à la publication de ces chiffres, l'association des villes allemandes, la Deutsche Städtetag, a appelé notamment à supprimer un certain nombre de normes contraignantes dans le milieu de la construction pour bâtir plus vite. Des initiatives cette semaine en Allemagne aussi, celle du ministre de la Santé Jens Spahn d'abord, qui veut réduire le temps d'attente dans les urgences des hôpitaux allemands.
Le but est surtout d'organiser les urgences des hôpitaux de façon à ce que les patients qui ont besoin de soins rapides reçoivent ces soins rapidement.
Alors jusque-là, ce que dit le ministre, ça paraît logique, mais dans la réalité, parfois des patients qui nécessitent des soins urgents doivent attendre longtemps car les urgences sont surchargées. Pour éviter que ça continue à l'avenir, les patients pourraient être amenés à appeler un numéro de téléphone avant de se rendre dans les services des urgences. On déterminerait alors si c'est vraiment urgent ou si un médecin classique suffit pour soigner la personne qui appelle. Ceux qui ne respecteraient pas cette procédure devraient payer davantage. Ils seraient moins remboursés par leurs assurances s'ils se rendent quand même aux urgences alors qu'on leur avait dit qu'un médecin classique suffirait. Pour l'heure, aucune date n'a été donnée pour les détails et la mise en place de cette réforme. Et puis une autre initiative pour finir cette semaine, venue de Berlin, où une plaque honore depuis lundi dans la Wilhelmstrasse la mémoire des signataires de la pétition Die Bobe, du nom de Martin Die Bobe. Ce conducteur de train berlinois originaire de Douala avait au début du siècle dernier initié une pétition avec 18 autres personnes. Pétition adressée à l'Assemblée nationale et aux autorités de l'époque. Elle protestait contre la violation systématique des droits humains alors qu'on négociait sur le sort des colonies après la Première Guerre mondiale. Le document reste comme l'un des documents de la résistance les plus importants de l'histoire coloniale allemande et il est donc aujourd'hui mis en valeur avec cette rue dans la Wilhelmstrasse numéro 52 dans les rues de Berlin. Autobahn, autoroute du groupe allemand Kraftwerk, c'est avec cette chanson de 1974 qu'on se rend à Pontevedra en Espagne. Ville en bord de mer dans le nord-ouest, elle compte 84 000 habitants et a une particularité, c'est celle de ne pas avoir de voiture, ou presque. La circulation se fait principalement à pied là-bas, les voitures ont été éliminées peu à peu du centre-ville. Alors comment est-ce possible? Comment est-ce accepté par la population? À pied, sans voiture, micro en main, Henri de la Guérie nous emmène à la découverte de Pontevedra.
Comme chaque jour, Juan Carlos, la cinquantaine, prend sa voiture pour rejoindre Pontevedra, là où il travaille. Le trajet dure 20 minutes, il habite à la campagne. La Galice a un surnom, la Bretagne espagnole. C'est très vert et très humide, il pleut ce matin. Il est 8h45, Juan gare sa voiture à l'entrée de la ville.
Je laisse mon véhicule ici dans un parking périphérique de la ville et je termine en marchant. La distance est courte et en 5 minutes je suis au travail.
Les quatre grands parkings de délestage sont tous gratuits. Depuis 25 ans, Juan Carlos est le responsable du service de nettoyage de la ville. Il a connu l'époque des encombrements et de ces voitures qui tournaient pendant des heures à la recherche d'une place libre.
Je me souviens, par ici, c'était rempli de voitures mal garées. On ne pouvait pas circuler. J'étais le conducteur du camion poubelle. Il y avait deux employés. Parfois, on était obligé de déplacer les voitures pour passer. Sinon, on restait bloqué.
Aujourd'hui, le camion passe sans problème et le travail est fait deux fois plus vite. Dans les rues, c'est le calme qui règne. La voie publique est occupée par des bancs et des terrasses de café. On ne croise que des gens à pied ou à vélo. C'est en 1999 que les voitures ont peu à peu été chassées du centre-ville. La mairie a commencé par supprimer toutes les places de stationnement à l'air libre, tout en créant les quatre grands parkings. Les panneaux de signalisation, les passages piétons et les feux tricolores ont été retirés. Aujourd'hui, la circulation n'est pas complètement interdite, mais elle est réservée aux véhicules d'urgence, aux services publics et aux livreurs. En milieu de matinée, alors que le soleil est revenu, Annabella promène sa petite fille en poussette dans la grande rue commerçante.
Les voitures passaient ici. Vous voyez, il n'y a plus aucun véhicule. Les trottoirs sont très larges. Il n'y a plus de bordure et la chaussée est au même niveau. On peut marcher paisiblement. Les enfants peuvent se promener tout seuls. Il n'y a aucun danger.
À Pontevedra, il n'y a pas non plus de bus ou de tramway. Résultat, 60% des déplacements se font à pied. L'homme à l'origine de cette révolution s'appelle Miguel Ancho Fernandez, architecte et maire depuis 20 ans. Il nous reçoit dans son bureau.
J'ouvre la fenêtre, on est au troisième étage et pourtant on entend parler les gens dans la rue. Ce n'est pas quelque chose de normal dans une ville de nos jours.
Il y a donc beaucoup moins de bruit, on respire mieux. En 20 ans, les émissions de CO2 ont diminué de 60%. Il n'y a plus d'accidents. Mais ce dont le maire est le plus fier, c'est la renaissance du centre-ville.
Quand le projet a démarré, on a demandé à un libraire s'il était favorable à la piétonnisation. Il a répondu « Aucune voiture n'est jamais entrée dans ma librairie pour m'acheter un livre ». Et c'est vrai. Une fois qu'on a rendu les rues aux piétons, eh bien les boutiques et les commerces de proximité ont multiplié par 3 leurs ventes. Les gens achètent quand ils sont à pied. Nous, on n'est pas favorable aux grands centres commerciaux. Ils ne font que vider les villes. Ça n'a pas de sens de sortir de la ville et prendre la voiture pour acheter une baguette pour revenir ensuite dans le centre. Ça ne fait qu'appauvrir l'espace public. Les petits commerces, ça dynamise la ville.
Et ça attire du monde. Pontevedra est la seule ville de Galice qui gagne chaque année des habitants. À quelques centaines de mètres de la mairie, vers 11h30 devant l'entrée d'une école, Justo Fernandez délimite un grand espace sur la voie publique à l'aide d'un ruban de chantier. C'est le directeur de l'école.
Là, on est sur une place en plein centre de Pontevedra. 400 enfants de maternelle et de primaire sont en train de sortir. C'est le moment de la récréation et ici, c'est leur cours. Avant, ils allaient dans un espace de récréation à l'intérieur. C'était un désastre car les enfants ne pouvaient pas mettre le nez dehors. Ils ne pouvaient pas se défouler, ils ne faisaient pas de sport. C'était très compliqué. Alors que là, on a noté une nette amélioration. Quand les enfants retournent en classe, ils sont beaucoup plus détendus.
Au café, dans la rue ou dans les commerces, il y a bien quelques habitants qui râlent contre certaines difficultés engendrées par cette politique en faveur des piétons. Mais personne ne regrette l'époque des voitures dans cette région pourtant classée à droite. Le maire, issu d'une formation régionaliste de gauche, a été réélu 4 fois de suite. Pontevedra, Henri de Laguérie pour la Deutsche Welle.
Voilà, 4 réélections, il y en a qui en rêvent. C'est avec ce reportage que prend fin Vue d'Allemagne cette semaine. Je vous remercie de nous avoir suivis. Vous retrouvez, comme chaque semaine, ce podcast sur notre site. Et n'hésitez pas à le partager autour de vous et sur les réseaux sociaux. On se retrouve, nous, la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite alles Gute, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Tschüss!